Chapitre 16. Des soldats au plastron étincelant, tous armés d'une pique dont la pointe brillait au soleil, étudiaient en silence les visiteurs qui passaient entre les deux grandes colonnes du portail. Quand ils examinèrent Sébastien et Jensen, la jeune femme fit très attention à ne pas les regarder dans les yeux. Gardant la tête baissée, elle ne vit pas si ces hommes s'intéressaient particulièrement à elle. Personne ne la retenant par un bras ni ne lui barrant le chemin, elle continua à avancer. La grande entrée souterraine étant faite de pierres aux couleurs vives, la jeune femme eut l'impression de pénétrer dans un immense hall, pas dans un tunnel creusé dans les entrailles d'une montagne. Disposée à intervalles réguliers sur des supports, des torches fournissaient une illumination un peu irréelle. Une odeur de pois brûlé flottait dans l'air, mais l'agréable chaleur du tunnel compensait bien des désagréments. Sur les côtés, des rangées de petites pièces étaient taillées à même la roche. Ces niches abritaient les échoppes de divers commerçants ou artisans. Avec leurs murs souvent tendus de tentures colorées, elles ajoutaient un peu de gaieté à un endroit par ailleurs très solennel. Dehors, n'importe qui pouvait exposer sa marchandise et la vendre. À l'intérieur, il fallait sans doute payer une patente, mais les conditions plus agréables, qui incitaient les clients potentiels à s'attarder, devaient compenser cet investissement. Attendant que leurs chaussures soient réparées, un petit groupe d'hommes et de femmes bavardait devant la boutique d'un cordonnier. Plus loin, des gens faisaient la queue pour acheter de la bière, du pain ou du ragoût de mouton bien chaud. Un commerçant à la voix chantante attirait des dizaines de personnes devant sa boutique, où il vendait de très appétissantes tourtes à la viande. Plus loin, dans un coin très fréquenté et bruyant, un coiffeur s'occupait de couper les cheveux de ces dames, de les teindre ou de les orner de minuscules morceaux de verre coloré enfilés sur de petites longueurs de fil. Non loin de là, une manucure officiait à côté d'une experte en maquillage. Également dans ce secteur, plusieurs boutiques proposaient de magnifiques rubans, certains imitaient si bien des fleurs qu'on s'y serait trompé, parfaits pour pimenter un peu une robe trop banale. Si on en jugeait par l'activité de ces commerçants, se dit Jensen, beaucoup de gens tenaient à paraître sous leurs meilleurs jours au palais, où ils venaient autant pour être vus que pour voir. Sébastien semblait aussi surpris que la jeune femme par ce qu'il découvrait. Jensen s'arrêta devant l'étal, négligé par la clientèle, d'un petit homme souriant qui proposait des chopes en étain. « Maître, savez-vous où je pourrais trouver un doreur nommé Friedrich ?»«
Il n'y a personne de ce nom ici, » répondit le commerçant. « Mais les œuvres d'art se vendent en général là-haut. »
Alors qu'ils avançaient dans les entrailles de la montagne, Sébastien prit de nouveau sa compagne par la taille. Jensen se sentit rassuré par la présence du jeune homme, son beau visage et les gentils sourires qu'il lui faisait. Avec ses cheveux blancs hérissés sur le crâne, il ne ressemblait à personne d'autre, et ses yeux bleus semblaient détenir les réponses aux dizaines de questions que Jensen se posait sur le vaste monde. Parfois, Sébastien parvenait presque à lui faire oublier qu'elle avait le cœur brisé par la mort de sa mère. Les visiteurs franchirent une série de grandes portes en fer très intimidantes. Mal à l'aise, Jensen préféra ne pas penser à ce qui arriverait si elle se refermait soudain dans son dos, la piégeant au cœur du fief de son ennemi. Un peu plus loin, une volée d'imposantes marches en marbre jaune pâle conduisait à un grand palier entouré d'une balustrade de pierre. Ici, de délicates portes en bois rare, artistiquement sculptées, remplaçaient les lourds battants de fer. Les couloirs aux murs enduits de plâtre étaient éclairés par des lampes, et on oubliait très vite qu'on avançait au cœur d'une montagne. Au-delà du premier palier, l'escalier continuait à monter, se séparant en deux à certains endroits. Plusieurs paliers intermédiaires donnaient sur de larges couloirs. Chaque fois, une partie des visiteurs s'y engageait car ils étaient arrivés à destination. La cité souterraine était immense, racontait-on, et des milliers de lampes ou de lampadaires y brillaient jour et nuit à longueur d'année. Sur certains paliers, des échoppes proposaient de la nourriture, et certaines offraient même des tables et des bancs à leur clientèle. Loin de ressembler à un antre infernal, la cité de l'éternelle nuit était un endroit confortable et même romantique d'une certaine façon. Quelques énormes portes gardées par des soldats semblaient être l'entrée des casernes. À un endroit, Jensen aperçut une rampe en colimaçon que gravissait une colonne de cavaliers. De son enfance, la jeune femme gardait des souvenirs très vagues, surtout quand il s'agissait de la cité construite sous le palais. À présent, elle découvrait que c'était un endroit merveilleux. Ses jambes la torturant à force de gravir des marches, Jensen comprit soudain pourquoi tant de gens préféraient installer leurs étals dans la plaine. Monter jusque là-haut durait très longtemps et c'était épuisant. D'après les conversations qu'elle avait entendues, Jensen savait désormais que les visiteurs prenaient souvent une chambre dans une auberge pour prolonger leur séjour dans le palais cité et ménager leurs mollets. Jensen et Sébastien furent récompensés de leurs efforts quand ils émergèrent de nouveau à la lumière du jour. Trois étages de grandes arcades dominaient le grand hall au sol de marbre où ils venaient d'entrer. Dans la voûte, des vitraux laissaient entrer la lumière, créant une sorte de couloir lumineux qui ne ressemblait à rien que Jensen n'eût jamais vu. Alors que la splendeur des lieux éblouissait sa compagne, Sébastien en était comme assommé. Comment peut-on construire un endroit pareil? Marmonna-t-il. Et pourquoi en avoir envie pour commencer? Jensen n'avait aucune réponse à ces questions. Cela dit, même si elle vomissait le seigneur Rall sous toutes ses incarnations, elle ne pouvait résister à la fascination du palais, un lieu sorti de l'imaginaire de visionnaire dont le génie l'époustouflait. La maison Rall a forcé des milliers de gens à trimer pour élever un monument à sa propre gloire, souffla Sébastien, visiblement indigné. Jensen ne crut pas utile de lui faire remarquer que le seigneur Rall ne semblait pas être le seul à tirer profit du palais du peuple. Des milliers de darrans vivaient grâce à ce complexe, jusqu'à Irma, la vendeuse de saucisses qui n'aurait sûrement pas prospéré sans le flot de visiteurs qui venaient chaque jour au palais. Le grand couloir qui s'étendait à l'infini vers l'avant et vers l'arrière était aussi un centre d'activité commerciale, car des boutiques s'alignaient tout au long des arcades. Certaines abritaient un seul artisan et n'avaient pas de vitrine. D'autres, beaucoup plus grandes, disposaient d'une façade vitrée et d'une porte. À l'évidence, elles fournissaient de l'emploi à des dizaines de gens. On trouvait de tout dans ce couloir, des coiffeurs, des arracheurs de dents, des portraitistes, des couturiers, et on y vendait tout ce qu'on pouvait imaginer, des produits les plus simples jusqu'aux parfums et aux bijoux hors de prix. Sans oublier, bien entendu, tout ce qui pouvait se boire ou se manger. Alors qu'elle tentait de repérer l'échoppe du Doreur parmi des centaines d'autres, Jensen remarqua deux femmes en uniforme de cuir marron, aux longs cheveux blonds tressés en une unique natte. Aussitôt, elle tira Sébastien par le bras et l'entraîna dans un passage latéral. Sans aucune explication, elle accéléra le pas, mais s'efforça cependant de ne pas éveiller les soupçons des gens en courant franchement. Soucieuse de mettre le plus de distance possible entre elle et les deux femmes, elle finit quand même par s'arrêter et entraîna son compagnon à l'abri d'une énorme colonne qui les dissimulerait. Voyant que des curieux les regardaient, elle tira Sébastien par la main jusqu'à un banc et s'y assit avec lui en prenant l'air innocent, comme si elle était une visiteuse qui entendait se reposer un peu. Au-dessus des deux jeunes gens, l'imposante statue d'un guerrier nu appuyé sur une lance semblait monter la garde dans le passage. Jensen et son compagnon tendirent un peu le cou, discrètement bien entendu, et attendirent que les deux femmes vêtues de cuir passent devant eux. Quand elles arrivèrent, elles regardèrent à droite et à gauche, étudiant froidement et efficacement tous les badauds qui les entouraient. Dans leurs yeux, on voyait que ces femmes avaient l'habitude de décider sans remords et en une fraction de seconde de la vie ou de la mort des autres. Jensen se plaqua contre le mur, comme si elle avait voulu s'y enfoncer. Tétanisée, elle retint son souffle jusqu'à ce que les deux femmes aient repris leur chemin. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Demanda Sébastien quand il vit que son ami reprenait des couleurs.
Des morts de site.
Pardon?
C'était des morts de site.
Le jeune homme aux cheveux blancs jeta un coup d'œil en direction des morts de site, mais elles étaient déjà hors de vue.
Je ne sais pas grand-chose au sujet de ces femmes, et j'avais presque oublié leur nom. Ce sont des gardes d'élite ou quelque chose comme ça? N'étant pas d'Aran, il semblait logique que Sébastien ignore certains détails sur les morts de site. Jensen décida qu'il était temps de faire son éducation.
Des gardes, oui, on peut dire ça comme ça, mais très particulières parce qu'elles sont exclusivement attachées au seigneur Rall. Elles le protègent bien sûr, mais ce n'est pas leur seule mission. Elles sont aussi chargées d'arracher des informations aux gens qui ont le don, par la torture.
Qu'entends-tu par les gens qui ont le don? Les personnes qui ont des pouvoirs mineurs?
Non, tous ceux qui pratiquent la magie, y compris les magiciennes et les sorciers.
Sébastien ne parut pas convaincu. Les sorciers sont très puissants. Il leur suffirait d'un simple sortilège pour écrabouiller ces femmes. La mère de Jensen lui avait longuement parlé des morts de site.
La règle d'or était de les éviter à n'importe quel prix car il existait peu de gens plus redoutables qu'elles. Lorsqu'il était question de danger, Dame Daggett ne cachait jamais l'entière vérité à sa fille.
Non, parce que les morts de Sith peuvent s'approprier le pouvoir de leurs adversaires, y compris celui d'une magicienne ou d'un sorcier. Elles ne capturent pas seulement une personne, mais emprisonnent son pouvoir. Quand on est entre leurs mains, il n'y a aucun moyen de leur échapper. Elles seules peuvent rendre sa liberté à un prisonnier, et elles le font rarement.
Sébastien parut plus troublé qu'éclairé par les explications de son ami. S'approprier le pouvoir de leurs adversaires, c'est bien ce que tu as dit? Bon sang, ça n'a aucun sens. Que peuvent-elles faire avec la magie de quelqu'un d'autre? Cela revient à arracher les dents d'un homme pour essayer de manger avec. Bref, c'est ridicule. Jensen glissa une main sous sa capuche pour remettre en place une mèche rousse vagabonde.
Je ne peux pas t'en dire plus, Sébastien. On raconte qu'elles retournent le pouvoir de leurs prisonniers contre eux-mêmes pour les blesser et les faire souffrir.
Je n'ai aucun pouvoir. Pourquoi devrais-je avoir peur de ces femmes?
Elles savent arracher des informations aux ennemis du Seigneur Ral qui pratiquent la magie, mais pour ce qui est de faire souffrir, elles ne se limitent pas à ces victimes-là. Tu n'as donc pas vu l'arme qu'elles portent?
Non, je n'ai pas aperçu d'arme sur elles. En revanche, elles avaient une bizarre petite tige de cuir rouge.
C'est ça leur arme. On l'appelle un agiel. Elles le portent toujours autour du poignet au bout d'une chaîne, afin de pouvoir le prendre en main très vite et en toutes circonstances. C'est une arme magique.
Sébastien essaya d'assimiler ce que lui disait son ami, mais il n'y parvint visiblement pas.
« Et que font-elles avec leur agiel ?»
Son incrédulité surmontée, il posait à présent des questions avec le calme et la précision d'un esprit analytique. Bref, il remplissait la mission dont Jagang l'avait chargé.
« Je ne suis pas experte en ce domaine, » répondit Jensen. Mais d'après ce que je sais, le simple contact d'un agiel peut briser un os, provoquer une souffrance intolérable ou entraîner une mort subite. C'est la mort de Sith qui décide de l'effet qu'aura son arme sur une victime donnée.
Sébastien essaya de nouveau d'apercevoir les deux femmes, mais elles étaient décidément trop loin.
Pourquoi as-tu si peur de ces morts de Sith? Après tout, ce sont simplement des histoires que tu as entendues. Elles ne devraient pas t'impressionner comme ça.
Jensen n'en crut pas ses oreilles.
Sébastien, le Seigneur Ral me traque depuis toujours, et ces femmes sont ses tueuses à gages. Tu penses qu'elles n'aimeraient pas me livrer pieds et poings liés à leur maître?
Bien entendu, si tu présentes les choses comme ça.
Au moins ces deux-là portaient leur tenue en cuir marron. Quand elles sentent un danger, ou lorsqu'elles s'occupent d'un petit chien, elles revêtent leur uniforme rouge sur lequel le sang ne se voit pas trop.
Sébastien se posa les mains sur les yeux, puis les passa dans ses cheveux blancs en bataille.
Tu vis dans un royaume de cauchemars, Jensen Daggett.
Jensen Ral, faillit corriger amèrement la jeune femme. Tu crois m'apprendre quelque chose?
Et que feras-tu si cette magicienne refuse de t'aider, ma pauvre amie?
Je n'en sais rien.
Le Seigneur Ral ne cessera jamais de te harceler.
Tu ne seras pas libre. Tant que tu ne l'auras pas tué,
ajouta mentalement Jensen, complétant la phrase de son compagnon.
Althea m'aidera. Je suis fatigué de fuir et de vivre avec la peur. Il faut que ça s'arrête.
Sébastien posa une main sur l'épaule de la jeune femme.
Je comprends.
Ces deux mots, à cet instant précis, valaient plus cher que de longues protestations de loyauté. Le saisissant, la jeune femme hocha la tête pour montrer qu'elle appréciait la fidélité de son ami.
Jensen, il y a des magiciennes comme Althea dans l'Ancien Monde.
Elles font partie d'un ordre, les Sœurs de la Lumière, qui vivaient jusqu'à ces derniers temps au Palais des Prophètes.
Quand il a envahi mon pays, Richard Ral s'est empressé de détruire ce lieu d'une incroyable beauté et d'une indicible valeur. À présent, les Sœurs combattent aux côtés de l'Empereur Jagang. Je pense qu'elles seraient en mesure de t'aider.
Jensen regarda son ami dans les yeux.
Vraiment? Ces femmes qui se sont alliées à l'Empereur pourraient connaître un moyen de me soustraire à la sorcellerie de mon ignoble demi-frère? Mais il me suit toujours de près, guettant le moment où je trébucherai. Sébastien, je dois trouver une solution avant que nous soyons chez toi. Althea m'a aidé par le passé, et je dois la convaincre de recommencer. Si elle refuse, je crains de n'avoir aucune chance de m'en tirer.
Sébastien sonda une nouvelle fois le couloir, puis il eut un sourire plein d'assurance.
Nous trouverons Althea, c'est promis.
Sa magie te dissimulera et tu pourras fuir Dara. » Un peu réconforté, Jensen sourit aussi. Estimant que les morts de Sith étaient loin et qu'il n'y avait plus aucun danger, les deux jeunes gens commencèrent à chercher Friedrich. Après avoir interrogé plusieurs commerçants, ils en trouvèrent enfin un qui connaissait le Doreur. Le cœur plein d'espoir, ils s'enfoncèrent dans le palais suivant les indications qu'on leur avait données. À l'intersection de deux grands couloirs, Jensen fut surprise de découvrir une petite cour au sol carrelé, au milieu de laquelle miroitait un bassin protégé des rigueurs de l'hiver par un toit vitré qui laissait filtrer la lumière du soleil. Au centre du bassin, à un endroit qui semblait logique à Jensen, même si elle ne comprenait pas pourquoi, se dressait un rocher noir sur lequel reposait une petite cloche. Un sanctuaire étonnant dans une cité qui bourdonnait pareillement d'activité. À la vue de ce lieu, des souvenirs remontèrent à la mémoire de Jensen. Il s'agissait d'une cour de dévotion, se rappela-t-elle, et tout le monde au palais y venait quand les cloches sonnaient afin de chanter les louanges du seigneur Ral. Cet hommage, soupçonna-t-elle, était sans doute le prix à payer quand on désirait séjourner longtemps au palais du peuple. Assis sur le muret qui entourait le bassin, des gens murmuraient entre eux en regardant les poissons oranges qui nageaient dans les eaux sombres. Fasciné, Sébastien lui-même contempla un long moment ce spectacle avant de se remettre en chemin. Des soldats patrouillaient partout et d'autres étaient en poste aux endroits stratégiques du palais. Les groupes de gardes restaient en permanence sur le pied de guerre et ils n'hésitaient pas à intercepter et à interroger les visiteurs qui semblaient suspects. Ignorant sur quoi portaient ces interrogatoires, Jensen avait des sueurs froides à l'idée d'en subir un.
« Que dirons-nous si on nous pose des questions ?»
demanda-t-elle à Sébastien. « Le moins de choses possible, sauf si on ne peut pas faire autrement. »«
Et si on ne peut pas faire autrement ?»«
Il faudra raconter que nous vivons dans une ferme au sud. Les paysans sont isolés de tout et ils ne connaissent rien à part leur petite vie à la campagne. Notre ignorance n'étonnera personne. » Prétendre que nous sommes venus pour voir le palais et faire quelques emplettes, par exemple les herbes, serait sans doute une bonne idée.
Jensen avait rencontré pas mal de paysans et ils étaient beaucoup moins stupides que son ami le prétendait.
Les paysans font pousser les herbes dont ils ont besoin. Je ne vois pas pourquoi ils devraient venir en acheter au palais.
Oui, c'est bien raisonné. Voyons voir. Nous sommes venus acheter du tissu pour le trousseau du bébé.
Le bébé? Quel bébé?
Le tien? Tu es ma femme et tu viens d'apprendre que tu attends un petit. »
Jensen sentit qu'elle s'empourprait. Ce mensonge idiot inciterait les soldats à poser des tas de questions gênantes.
« Tout compte fait, je préfère que nous soyons des paysans venus acquérir des herbes qu'ils ne savent pas bien faire pousser. »
Sébastien eut un petit sourire, puis il enlaça de nouveau Jensen pour l'aider à oublier sa timidité et son embarras. Suivant les indications qu'on leur avait fournies, les deux jeunes gens s'engagèrent dans un autre couloir, sur la droite, où s'alignaient aussi des boutiques. Jensen repéra immédiatement l'étoile dorée qui servait d'enseigne à l'échoppe de Friedrich. Que ce fût intentionnel ou non, cette étoile avait 8 branches, comme celle de la grâce. La jeune femme avait assez souvent dessiné le diagramme sacré pour le savoir. Sébastien à ses côtés, elle pressa le pas, atteignit l'échoppe, et eut un pincement au cœur en découvrant qu'elle était déserte. Mais à cette heure matinale, le Doreur n'était peut-être pas encore arrivé. D'ailleurs, dans le coin, plusieurs boutiques n'étaient pas encore ouvertes. Jensen s'arrêta devant l'étal d'un vendeur de chope.
« Savez-vous si le Doreur viendra aujourd'hui ? »
demanda-t-elle à l'homme assis derrière son établi.
« Désolé, mais je l'ignore, »
répondit l'artisan sans lever les yeux de la pièce qu'il était en train de graver.
« Je viens juste d'arriver. »
Jensen approcha d'une autre boutique où on proposait de splendides coussins brodés de scènes bucoliques. Se tournant pour dire quelque chose à Sébastien, elle constata qu'il était allé interroger un autre commerçant. La marchande brodait sur un carré de tissu un torrent bleu qui dévalait le flanc d'une montagne. Des images de ce genre ornaient les coussins exposés derrière elle sur une étagère.
« Maîtresse, » dit Jensen, « savez-vous si le Doreur viendra aujourd'hui ?»
La femme sourit.
« Navré, mais je crains qu'il ne se montre pas de la journée. »«
Je vois. » Très déçue, Jensen se demanda ce qu'elle devait faire à présent.
« Avez-vous idée du jour où il viendra ?»«
Hélas, non, »
dit la marchande en continuant à coudre.
« Je n'en ai pas la moindre idée. La dernière fois que je l'ai vu, il y a plus d'une semaine, il a dit qu'il serait peut-être absent un long moment. »
Et vous savez pourquoi ?
Pas vraiment. Mais il lui arrive de ne pas venir pendant un mois ou deux. Il travaille à ses sculptures, le temps d'en avoir produit assez pour que ça vaille le déplacement jusqu'au palais.
Vous avez idée de l'endroit où il habite ?
La femme plissa le front.
En quoi ça vous intéresse ?
Jensen réfléchit et décida de répéter ce que lui avait dit Irma, la marchande de saucisses engagée pour veiller sur Betty et les chevaux.
« Je viens pour une prédiction. »«
Ah oui, je comprends, »
fit la brodeuse, ses soupçons envolés.
« Donc c'est Althea que vous voulez voir en réalité, c'est bien ça ?»«
Ma mère m'a amenée chez cette magicienne quand j'étais petite. Depuis que je suis orpheline, j'ai envie de revoir Althea. Je pense que ses prédictions me réconforteraient. »«
Toutes mes condoléances pour ta mère, ma fille. Je comprends ce que tu éprouves. » Quand j'ai perdu la mienne, j'ai eu du mal à m'en remettre.
Vous savez où habite Althea ?
La marchande posa son ouvrage et se leva.
Ce n'est pas la porte à côté. Il faut marcher vers l'ouest à travers un désert.
Les plaines d'Azrith ?
C'est ça. À l'ouest, le paysage devient moins plat. De l'autre côté du pic le plus haut que tu verras à l'ouest d'ici, le seul qui soit couronné de neige, il faudra tourner au nord, longer des falaises, puis descendre au fond d'un canyon où se niche un marécage puant. Althea et Friedrich vivent dans ce coin.
Un marécage ? Ils ne peuvent pas y habiter en hiver, voyons.
C'est pourtant ce qu'ils font, d'après ce qu'on dit. Le marécage d'Althea, un endroit évité, paraît-il.
Certaines personnes affirment que ce n'est pas un lieu naturel, si tu vois ce que je veux dire.
Vous voulez parler de sorcellerie ?
Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais...
Jensen remercia la femme d'un hochement de tête et répéta ses indications.
De l'autre côté du plus haut pic, à l'ouest d'ici, il faut tourner au nord, longer des falaises et descendre dans un canyon.
C'est dangereux, ma fille,
dit la marchande en se gratouillant la tête.
Et tu n'auras pas intérêt à y aller sans avoir été invité.
Jensen tourna la tête pour faire signe à Sébastien qu'elle avait trouvé des réponses à leurs questions, mais elle ne le vit pas dans les environs.
Et comment s'y prend-on pour être invité ?
En général, les gens s'adressent à Friedrich. J'en ai vu venir lui parler et repartir sans même jeter un coup d'œil à ses sculptures. Selon moi, il demande à Althea si elle veut voir telle ou telle personne et il transmet la réponse quand il revient au palais. Parfois, des clients lui confient une lettre pour son épouse. Certains voyagent jusqu'aux abords du marécage et attendent des jours durant qu'il en sorte pour leur adresser une invitation d'Althea. Il paraît que... quelques téméraires se sont même aventurés jusqu'à la lisière du territoire de la magicienne et en sont revenus sans avoir reçu d'invitation. Mais personne n'est jamais entré dans ce trou puant sans l'autorisation d'Althea. Enfin, personne qui en soit revenu pour le raconter, si tu vois ce que je veux dire.
Dois-je comprendre que je devrais aller là-bas et attendre qu'Althea ou son mari daigne se montrer pour m'autoriser à entrer ?
C'est ça, en gros. Sauf qu'Althea ne sort jamais du marécage. C'est toujours son mari qui s'y colle. Cela dit, ma fille, tu as une autre solution. Revenir ici tous les jours jusqu'à ce que Friedrich se montre. Il est rarement absent plus d'un mois d'affilée, donc l'attente ne sera pas trop longue.
Des semaines.
Jensen ne pouvait pas rester si longtemps au même endroit alors que les sbires du seigneur Rall la traquaient. D'après Sébastien, ils avaient à peine quelques jours d'avance sur leurs poursuivants.
Eh bien... « Merci de votre obligeance, maîtresse. Je reviendrai un autre jour pour tenter de voir Friedrich et lui demander une invitation. »
La marchande se rassit et reprit son ouvrage.
« C'est sans doute la meilleure solution. »«
Encore toutes mes condoléances pour ta mère.
C'est une dure épreuve et je sais de quoi je parle. »
Des larmes aux yeux, Jensen se contenta d'acquiescer car elle avait peur que sa voix tremble trop. En un éclair, elle revit l'atroce scène. Les tueurs, le sang, le bras coupé de sa mère. Non sans peine, elle chassa ces images de son esprit afin que le chagrin et l'angoisse n'en prennent pas le contrôle. Elle avait des soucis plus immédiats. Pour trouver Althea et obtenir de l'aide, Sébastien et elle avaient fait un long voyage en plein milieu de l'hiver. À présent, ils ne pouvaient pas attendre une invitation de la magicienne parce que les assassins du seigneur Rall leur collaient au basque. La dernière fois qu'elle avait hésité devant l'Althea, Jensen avait irrémédiablement gâché une de ses rares chances. La magicienne avait été tuée et ce drame pouvait se reproduire.
Jensen devait trouver Althea avant les meurtriers, au minimum pour la prévenir du danger et l'informer de la mort de sa sœur.
Jensen chercha Sébastien du regard dans le grand couloir. Il ne pouvait pas être allé bien loin.
De fait, elle l'aperçut de dos devant la boutique d'un bijoutier.
Avant qu'elle ait fait deux pas vers les chopes, des soldats surgirent et entourèrent Sébastien.
Jensen se pétrifia.
Immobile comme une statue, Sébastien ne broncha pas lorsque des soldats, du bout de son épée, souleva son manteau pour étudier sa panoplie d'armes. Paniqué, Jensen aurait été incapable de faire un pas en avant.
Une demi-douzaine de piques se braquèrent sur Sébastien et d'autres soldats dégainèrent leur épée.
Les badauds s'écartèrent prudemment, formant un cercle afin d'observer la scène.
Entouré de colosses armés jusqu'aux dents, le jeune homme aux cheveux blancs leva les mains.
« Renonce !»
Dans la cour de dévotion, la cloche se mit à sonner.